Hello tout le monde! Au cours de ce podcast, nous ferons référence à certaines documentations. Les liens apparaîtront dans la barre de description. Alors, bonne écoute!
Toi, tu sais, quand hors ligne, tu nous parlais, ouais. Hors antenne, tu nous parlais d'un truc qui était intéressant, c'est comment c'était toi t'en es arrivé à te mettre en...
Oui, moi c'était plus par rapport au mode de vie, puisque moi ce que je comprends, c'est que ben, moi je peux raconter comment j'en suis arrivée à la cétose. Et le processus que j'ai vécu, c'était pas que la cétose, c'était aussi la philosophie, ce qu'on était en train de mettre en place, enfin, le mode de vie, de se poser des questions sur les mémoires. Enfin, il y avait tout ça. Moi, je sais. Je peux pas parler du fait que j'ai vécu le fait de faire un burn-out ou de m'ouvrir à un monde
invisible.
Parce que j'ai fait la cétose. Parce que là, pour moi, c'est quand même très réducteur et, à mon avis, très perturbant. Enfin. Parce que je sais que c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'il y a eu les mémoires, enfin le fait du questionnement sur les mémoires et sur voilà des mémoires qui sont remontées.
Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça plus concrètement
Quand nous avons changé notre mode d'alimentation et que nous avons découvert le régime cétogène et que nous avons fait la cétose pendant 3 mois. Accompagné de compléments alimentaires. Hein. Nous prenions une supplémentation en sélénium, silicium...
Iode. Ouais. Et que nous prenons toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
Et magnésium. Voilà. Enfin, ouais. Il y avait pas mal... Dans la cure stricte, nous prenions tous les compléments alimentaires que nous avions vu qui étaient importants de prendre.
Ouais.
Maintenant, comme nous ne sommes plus en stricte, c'est plus aléatoire, c'est plus en fonction de ce qui a besoin. L'iode, oui, par contre,
c'est tout resté tous les jours. Pour ouais. Moi aussi.
J'ai découvert en même temps le fait que nous pouvions avoir des signes, c'est-à-dire que l'univers pouvait communiquer avec nous si nous posions une question. Enfin, moi, je veux dire, moi, si je posais une question à l'univers, là, à ce moment-là, je posais une question dans le sens. Enfin, j'avais besoin de sortir de ma problématique d'être mal. En fait, c'était en gros d'être mal, mais... Ouais, Gabi était née. Mais j'étais mal dans ma peau, en fait, dans qui j'étais. Je me sentais bloquée, avoir peur d'aller vers les autres. Je me sentais pas bien avec moi-même. Et j'avais beaucoup de peur par rapport à Gabi. J'étais plutôt en mode... sur protection, même, à ce moment-là. Et
juste, je te coupe, juste pour préciser que là, donc, tout ce que tu dis, c'était vraiment, on était dans un contexte là de travail, d'introspection en nous-mêmes, d'aller faire justement, d'aller voir ce qui bloquait en nous, parce qu'on revivait quand même des schémas répétitifs dans nos vies qui nous posaient question, des schémas qui sont pas forcément... Enfin, des schémas qui nous menaient à des souffrances, quoi. Et c'est pour ça qu'on se posait ces questions. Et donc tu parles de ce moment où on a décidé de prendre à bras le corps ce sujet et d'y aller, quoi, de s'introspecter.
Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons déménagé. Et donc, nous avons fait ce régime cétogène.
Et le lien avec le monde invisible, tu disais tout à l'heure.
Voilà, le lien avec le monde invisible qui peut... on va dire, interagir avec nous par des signes. Et ça, je ne connaissais pas ce principe-là. Et un jour, en fait, j'ai eu des signes qui m'ont parlé. C'est-à-dire, un signe, c'est quand il y a quelque chose qui se passe dans ma journée. Par exemple, j'étais allée avec Gabi me promener dans le village et faire des jeux. Et Gabi me fait une remarque de savoir si elle est bien protégée, elle... au niveau du minou, donc c'est comme ça qu'elle a appelé son sexe. Et donc là, en fait, à ce moment-là, quand elle me dit ça, moi, c'est juste, ça me fait quelque chose à l'intérieur, émotionnellement, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et c'est pas...
Oui, parce que tu t'étais posé la question avant.
Mais je m'étais posé la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas bien.
Voilà, dans ma vie. T'avais lancé cette question.
Voilà, ok.
Et donc là, ce jour-là, j'avais... vu des personnes, on s'était retrouvés devant l'église, que Gabi voulait aller voir l'église, qui était fermée à clé, j'avais regardé dans l'église, et en regardant dans l'église, j'ai vu juste Jésus, une statue de Jésus avec le cœur de Jésus, rédempteur, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, ouais. Et ça m'a beaucoup secoué intérieurement, Et voilà, c'est tout. Ce jour-là, c'est tout.
Secoué dans quel sens ?
Ça m'a fait peur. J'ai eu comme s'il y avait quelque chose là qui était en train d'émerger. Gabi était, après, était sortie de l'autre côté et demandait si quelqu'un arrivait. Enfin, il y avait une angoisse. J'étais en angoisse, en fait. J'étais dans une angoisse. Là, il y avait un danger. Il y avait quelque chose, je ne comprenais pas, mais il y avait un danger. Gabi, il fallait qu'elle soit près de moi pour qu'il lui arrive rien. J'avais cet état-là. Et je ne comprenais pas vraiment. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit que j'avais certainement des mémoires dans d'autres vies où j'avais vu des choses par rapport à la religion, avec des enfants et tout ça. Quelque temps après, je me retrouve à percevoir des mondes, enfin, percevoir des choses que je ne voyais pas avant. Et là, à ce moment-là, tout devient signe, à ce moment-là, pour moi. C'est-à-dire que n'importe quel nom de rue que je pouvais lire me parlait. Mais parler dans le sens, oui, je sais que ça me dit quelque chose. Mais je ne saurais pas dire mentalement qu'est-ce que ça m'expliquait. J'ai fait une sorte de burn-out. C'est comme ça que ça a été défini.
Le fait de lire tous les signes tout le temps, c'est ça qui t'a amené au burn-out ?
Je percevais des choses que d'autres ne voyaient peut-être pas. En fait, c'est plus ça. Il y avait des choses que j'osais faire, que je n'osais pas faire avant. Et un jour, avec Gabi, nous sommes allés dans le parc du village. Et j'interpellais les enfants pour savoir comment ils s'appelaient. Et comme ça, Gabi, elle voyait comment on pouvait faire avec les enfants. Parce qu'elle, elle avait toujours très peur d'aller vers les enfants. Elle les observait, mais elle avait toujours très peur. Et une fois que j'ai vécu cette crise de burn-out, on va dire, le comportement de Gabi a changé. Il y a eu quelque chose qui s'est libéré dans son comportement. Elle n'avait plus peur d'aller poser des questions à des personnes qu'elle pouvait rencontrer.
Parce que toi-même, tu avais dépassé des peurs.
Oui, j'avais dépassé ces peurs-là.
Gabi s'est mise à changer d'attitude et aller plus vers les autres parce que toi, en parallèle, tu venais de vivre un processus où tu as dû aller te reposer dans un hôpital hein, où là, t'as, pendant 3 jours,
j'ai dormi
essentiellement. Et donc, pendant ce cursus où Gabi était en train de s'ouvrir.
Oui, quand même.
Qui était incroyable. Le parallèle qui était troublant. Voilà. Et après, tu as réussi à aller plus loin.
Après, j'ai fait effectivement 3 jours en hôpital psychiatrique. Parce qu'effectivement, j'avais oublié, mais je ne dormais plus, en fait, la nuit. Effectivement, mon cerveau tournait à fond.
À plein régime.
Ça, oui, je me souviens, ça y est. J'avais vraiment des facultés que je n'avais pas auparavant. Et en fait, je ne pouvais plus m'empêcher de réfléchir, en fait. Enfin, c'est comme si, tout le temps, il fallait que j'exprime ce qui pouvait me traverser. Et donc, je n'arrivais plus à dormir pour me reposer. Quand j'ai rencontré le médecin psychiatre, que je lui ai expliqué mon processus, qu'il y a quand même toute une remise en question après dans notre relation de couple et de famille. Moi avec Dams. Quand j'ai accouché de Gabi, j'ai un peu retravaillé, mais j'ai vite arrêté. Et Dams, lui, il travaillait toujours. Et là, c'est vrai que la période où nous avons déménagé, c'était la première fois où nous nous retrouvions ensemble. Et finalement, dans notre relation et dans notre remise en question, dans tout le travail qu'on faisait sur notre sens, sens de notre vie.
Ça a commencé là.
Voilà, tout le changement de l'alimentation, tout ça a mené à ce qu'il y ait des changements dans notre fonctionnement. Quand j'ai parlé de ça au médecin psychiatre, lui, il m'a dit, moi, je vois que vous n'avez aucun besoin d'antipsychotiques ou d'anxiolytiques et que, bravo, enfin, il aurait aimé que tous ses patients puissent résoudre leurs problématiques comme ça.
De la même manière, ouais.
Voilà, et il m'a dit que mon dossier était clos. Et donc là, oui, moi, j'ai été libérée de quelque chose. Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est libéré par rapport à mon histoire personnelle, où mon père était schizophrène et donc a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et donc là, pour moi, je crois que j'ai dépassé la plus grosse peur, enfin une des plus grosses peurs, en tout cas, de ma vie, de me retrouver face à un médecin psychiatre et d'assumer toute seule de dire ce qui s'était passé et que, oui, et que je n'étais pas folle et que j'avais toutes mes capacités intellectuelles, que je pouvais être une femme, être une mère, et vivre de façon équilibrée.
Mais je vois aussi le lien avec l'acétose, ce que ça exprime dans l'ensemble. L'acétose, on parle de détoxification du corps. Mais là, je vois aussi que quand on est dans une démarche d'introspection, ça peut aussi déclencher des remontées de mémoire. Ça fait partie aussi d'un processus qui favorise, donc là je parle de favoriser l'émergence de mémoire traumatique, et surtout de pouvoir les réceptionner et d'arriver à les juguler. Voilà, c'est ça que je vois dans ce que tu dis.
Tu veux dire que oui, parce que l'année suivante, c'est passé là où on remontait, où effectivement, ce qui est remonté à ma mémoire, on va dire, plutôt dans les mémoires de mon corps, effectivement, dans ce que j'ai pu ressentir et évacuer par les pleurs, par beaucoup de pleurs, notamment, c'est effectivement un abus par un prêtre. C'était ça que j'aurais vécu dans mon enfance, un abus par un prêtre.
Ça fait les liens avec tout à l'heure, quand tu disais, Gabi, qu'il fallait qu'elle protège son minou.
Voilà, c'est ça.
Et oui, toi, qui rentre dans l'église à ce moment-là, et tu te sens en angoisse, en danger.
Angoisse et danger. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est en ça que c'est un processus, parce qu'effectivement, c'est que 2 ans après que j'ai découvert ça. Que 2 ans après avoir eu ses premiers signes, plutôt. Donc, Gabi est née il y a 8 ans. Et sa naissance a été très compliquée pour moi, mais pour nous après. Et en fait, j'ai pu l'allaiter pendant 10 jours. Et après, j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas assez de nourriture. Justement, elle n'avait pas assez de lait.
Elle ne reprenait pas de poids.
Voilà, elle ne prenait pas de poids. Elle n'avait pas encore repris son poids de naissance, en fait. On m'avait conseillé de prendre un tire-lait électrique. Et le peu que je tirais comme lait, ben, en fait, elle pleurait quand même tout le temps. Elle a beaucoup pleuré pendant tout ce temps, jusqu'à ce que ben, là, on décide un jour de lui donner du lait maternisé. Et là, je me suis rendu compte que ben, moi, je lui apportais un biberon alors qu'elle en réclamait 8.
Ah ouais.
En quantité. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ben moi, pour moi, je pensais que j'avais ce qu'il fallait. Enfin, c'est toujours ce qu'on m'avait dit dans ma préparation à l'accouchement et dans ce que j'ai pu aussi chercher comme information, que la femme avait ce qu'il fallait pour son enfant à sa naissance. Et donc,
Sauf cas exceptionnel.
Et donc, c'était le cas de ne pas prendre en compte l'histoire des mémoires ou de ce que je pouvais transporter dans ma génétique. C'était bien ça, parce que... pendant que j'étais enceinte de Gabi, j'ai appris, enfin ma mère m'a expliqué que quand elle était enceinte de moi, donc déjà je savais que quand elle était enceinte de moi, elle avait dû rester allongée pendant 6 mois, mais elle avait pris aussi des anxiolytiques, enfin de type Temesta.
Mm-hmm. Parce qu'elle pleurait beaucoup.
Voilà, parce qu'elle avait beaucoup d'angoisse, enfin elle était très... et elle pleurait beaucoup, oui. Donc ça l'apaisait de prendre...
Donc à l'époque, pour apaiser ça, ils n'avaient que cette solution.
Voilà. Parce que j'ai dû aller enquêter de pourquoi la naissance de Gabi a été si compliquée, pourquoi je n'ai pas eu le lait nécessaire pour Gabi. Et donc pareil, même processus, je pose la question à l'univers, on va dire plutôt à mon ange, ce qu'on appelle entre nous l'ange.
Celui qui est en toi.
Celui qui est en moi, voilà.
Ange.
Voilà, ange. Et j'ai eu plusieurs signes qui m'ont menée au fait de comprendre que ben j'avais une hypoplasie mammaire. Une hypoplasie mammaire, c'est une atrophie. Enfin, les glandes mammaires ne se développent pas correctement. Dans mon enquête, ce que j'ai découvert, c'est que notamment une cause, le fait d'avoir été exposé en tant que fœtus, d'avoir été exposé à des substances médicamenteuses. Ou chimique, je ne sais plus trop comment c'est formulé. Donc là, c'était...
Ton expérience.
Ça faisait voilà, le lien avec...
le Temesta.
Ma mère, voilà ce qu'elle avait pris quand j'étais dans son ventre. et là, je comprenais que, ben oui, je n'avais pas pu allaiter Gabi comme je l'aurais souhaité, parce que ben, je n'avais tout simplement pas les capacités biologiques de le faire.
Oui, oui.
Et donc, ben, moi, ça me fait penser que l'alimentation, effectivement, c'est pas juste, ben, on nourrit le corps de cette façon, c'est même pas, on adopte un régime cétogène pour ci ou pour ça. Enfin, il y a tout un global autour à prendre en compte.
Il y a plein de paramètres.
Plein de paramètres, voilà. Qui fait que chacun ben, est le seul à savoir ce qui va le mieux pour lui. Et pour moi, le fait de passer par un régime cétogène strict, je reviens là-dessus, mais c'est comme si chacun peut reprendre, enfin moi en tout cas, j'ai vu que c'est comme si là je pouvais reprendre et recomprendre, et dans tout ce qui s'est dit, c'est comme si chacun peut reprendre et réécouter à nouveau les vrais besoins de son corps. Parce que pour autant, même si nous mangeons globalement de la même façon, on va dire, enfin plutôt dans le mode alimentaire, dans tous les cas, nous ne mangeons pas tous pareil.
Ce processus d'alimentation par la cétose ou paléocétose, eh ben, s'accompagne de guérison, parce qu'en fait, c'est ce que nous avons témoigné et ce que nous continuons à témoigner. Le fait de voir que c'est des choses qui sont en lien avec des traumas sexuels et aussi le rejet du prédateur, de la prédation, que je suis en train d'accepter et de guérir par cette nouvelle alimentation.
Oui, et déconstruire toutes les croyances qu'il peut y avoir aussi autour de l'alimentation.
Autour du lait, notamment, parce que le lait a été une grande histoire après avec Gabi. Ça continue avec le fromage, le lactose, la croyance que nous avions par rapport au... Il n'y a que le lait qui peut lui apporter ce dont elle a besoin.
Oui.
On lui donnait du lait sous toutes ses formes, par croyance qu'il n'y a que ça qui peut lui apporter le calcium dont elle a besoin. J'avais commencé à observer des symptômes que j'avais, je ne faisais pas forcément le lien avec. Mais il n'y a que récemment où j'ai vu, notamment, la présence de glaires. Je me suis dit, bon, c'est normal.
Et les glaires qui sont faits pour, quand même, produites pour rejeter les toxines du corps, voilà. Quand même.
Le corps humain, il n'est pas fait pour digérer le lactose, puisque le lactose, c'est plutôt au niveau, par exemple, des enzymes du veau ou du petit de la vache. Lui, il est adapté pour digérer ce genre d'aliments. Mais l'être humain, il est pas fait en fait pour digérer et même comment dire, son corps est pas fait pour digérer tout ce qui est de l'ordre du lactose.
Moi, depuis un moment, je me disais oui, le fromage de vache, évidemment, c'est pas bon pour la santé, c'est toxique puisque mon organisme n'est pas fait pour le digérer. Et par contre, le lait de brebis, lait de chèvre, le lait fermenté, tout ça, oui, c'est très bon, je le digère super bien, pas de problème, tout. Jusqu'à ce qu'il arrive un moment où, par beaucoup plus, en allant chercher de manière un peu plus pointue les informations sur mais est-ce que c'est vraiment nécessaire là, est-ce que c'est vraiment bon de manger certains types de fromage et pas d'autres, ou de produits laitiers, notamment brebis et chèvres. Et là, il y a une information moi qui m'a vraiment fait tilt, c'est le fait que, déjà, c'est des mères animales qui produisent du lait pour leurs petits. Donc moi, n'étant pas un petit animal en plus, il n'y a pas trop de raisons que je me nourrisse de ça. Ce n'est pas adapté pour mon organisme. Mais l'information qui est importante, c'est que dans ce lait qui est fait pour faire grandir un petit, y a plein d'hormones de croissance. C'est vraiment un concentré d'hormones de croissance qui contient toute la génétique de la brebis ou qui contient toute la génétique de la chèvre. Et là, alors que j'adorais ça et que je me disais non, il n'y a aucun problème pour moi, je me suis dit non, j'ai pas envie d'évoluer comme un mouton ou comme une chèvre. Dans le sens où cette génétique va forcément impacter la mienne. Il y a toutes ces hormones de croissance qui sont là. Ok, il y en a que mon corps il va virer, mais il y a quand même des... J'assimile un aliment qui constitue mon corps. Donc, pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout et de ne pas être justement trop focalisé sur cette vulgarisation de la cétose où on peut manger du mascarpone et tout ça, et que c'est cool. Ouais. Le lait de coco et la crème de coco, c'est aussi parfait pour remplacer ça. Dans le sens où, j'ai dit adieu au Roquefort, aux tous les petits subterfuges que j'avais pour continuer à manger des produits laitiers.
Ouais.
Lors de notre naissance, jusqu'à 3 ans à peu près, la période de sevrage, là, on sécrète de la lactase qui permet de digérer le lactose. Chose qui, après les 3 ans, on n'existe plus, on ne sécrète plus de lactase, donc on ne peut plus assimiler le lactose de manière, normale. Quoi.
Naturelle, oui.
Et donc ce lactose, il va se mettre où il peut dans le corps, donc il va se loger, un petit peu comme tu disais, le sucre tout à l'heure, il va bloquer des circuits, il va créer un voile, mais là c'est la même chose avec les articulations, souvent, il se dépose. Donc là, moi, c'était les glaires. J'ai pas eu de problème d'articulation, mais j'ai aussi noté que certains, dans mes recherches, en avaient par rapport justement à la consommation le lactose.
J'avais vu que justement le lactose, la consommation de lactose, ça pouvait favoriser l'arthrite. Donc il y a l'arthrose qui est plus courante chez les personnes âgées et l'arthrite c'est vraiment à tout âge.
Ouais.
Et les jeunes personnes peuvent être affectées d'arthrite parce qu'elles mangent du lactose ou du fromage. Et c'est vrai qu'il y a, un manque d'informations à ce niveau. Lorsque j'ai découvert que ça crée comme une espèce de grosse colle à l'intérieur de l'estomac parce qu'en fait c'est pas digeste, et bien là j'ai vu qu'effectivement c'était comme si ça... Ça crée des obstructions dans mon corps et ça m'a vite donné envie d'arrêter. Et pourtant, j'ai redouté ce sevrage au fromage, aux produits laitiers parce que j'adorais ça. Je vois aussi que c'est une question d'être informée parce que c'est quand moi, je me suis informée par moi-même que j'ai vraiment pu agir vis-à-vis de mon changement. Quant à la nourriture. Oui, et ouais. Que si j'écoute juste quelqu'un d'autre ou que je me dis « Ah, comment toi tu manges ?» et je vais faire de la même chose, c'est moins ancré et j'ai moins envie d'acter ce changement.
Il n'y a pas de conscience derrière.
Voilà, et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de vouloir convaincre quelqu'un d'autre de manger autrement tant qu'elle n'allait pas s'informer. Et moi, j'ai vu notamment ça au travers de mes lectures, au fil de mes lectures, quand, par exemple, j'ai lu un livre il y a quelque temps de Josh Axe que Flo m'avait recommandé, qui s'appelle « Salement bon pour la santé », qui est c'est un nutritionniste américain qui a soigné le cancer de sa mère en changeant son alimentation du jour au lendemain, mais de manière radicale. Et l'alimentation qu'il lui a prescrit, c'était vraiment similaire à la mienne aujourd'hui, et j'ai pu avoir des réponses quant à pourquoi certains aliments vraiment étaient néfastes et aussi déconstruire des croyances, parce que ça s'appelle Salement bon, ce bouquin, parce que justement il y a aussi l'espèce de préconçu que les aliments doivent être super stérilisés, pasteurisés.
Ah oui,
l'hygiénisme, sous vide, ouais, etc. Et qu'en fait, ça ne fait que affaiblir le système immunitaire qui ne sait plus se défendre. Donc certes, il y a tout qui se passe au niveau de ma conscience, mais il y a aussi le fait de faire descendre mes informations dans mon corps et
de régénérer le corps.
Oui. Régénérer le corps, m'observer plus, observer mes selles, parce que c'est ce qu'il expliquait, Josh Axe, c'est que il y a peu de médecins ou de professionnels de santé qui demandent à leurs patients l'aspect de leur selle. Et finalement, il dit que c'est un élément hyper important par lequel commencer lorsqu'on a un problème de santé. Et donc, toutes les maladies auto-immunes qui sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pense, parce que finalement, un cancer ou une autre maladie, la cause sous-jacente, principalement, c'est des problèmes au niveau de l'estomac, une porosité. Voilà. C'est toutes ces maladies auto-immunes, c'est parce qu'il y a un manque d'observation au niveau de ses selles, de son alimentation. Donc moi, je vois que je peux aussi me réajuster quotidiennement en observant la manière dont je digère, quand je digère pas, chose que je ne faisais pas du tout avant. Hein. C'est-à-dire que je ne savais pas quels aliments je digérais ou non.
Quand on parle de la cétose depuis le début et du régime paléo, il y a peut-être comment ça peut être entendu, c'est ah ouais, ils se sont privés, ils ont pas mangé ci, ils ont pas mangé ça, c'est vraiment drastique et tout. Moi, j'ai redécouvert le fait d'avoir fait tabula rasa sur l'ancienne alimentation, riz complet, carottes.
Bon, je schématise.
Oui,
en fait, toutes les habitudes, on va dire surtout toutes les habitudes, il y a avec plein de desserts, avec plein de crèmes et tout. Et tout ça, le fait que ça ait été balayé. Et ça m'a amené plein de nouvelles idées, créativité pour découvrir des saveurs. Mais voilà, donc par exemple, je sais que j'ai publié, et plusieurs d'entre nous ont publié sur les oléos, de leur propre création culinaire. Mais c'est génial, on peut faire des brownies, on peut faire plein de choses. Donc c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Oui. Ah, ils font le jeûne intermittent, oh là là, c'est l'acétose, c'est hyper dur. Non, en fait, il y a une nouvelle créativité. Tout en prenant soin de soi, c'est ça qui est super important.
Oui, et c'est bon.
Et donc Flo, toi, ça me fait penser, tu as vécu quand même des expériences quand toi tu t'es mis à la cétose qui était super troublante pour toi. J'ai vu que du jour au lendemain, tu as eu des changements dans ton métabolisme, enfin physiquement, t'as eu des périodes qui ont été assez douloureuses quand même lors de ton passage à la cétose.
Par rapport à ce dont tu parles, il y a eu les phases d'adaptation physique. Donc ce qui s'est passé concrètement, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à m'alimenter différemment, mais donc avec le régime cétogène, j'ai eu surtout un épisode où c'était vraiment flagrant, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire le régime cétogène, en même temps j'actais le jeûne intermittent, en même temps je prenais aussi de l'iode, etc. Et en fait, là, j'ai eu un moment où j'ai dû rester cloué au lit pendant, je pense que c'était peut-être 24 heures, peut-être un peu plus. Mais là, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire, je devais juste rester au lit. Et c'est vrai que j'avais, en plus, je me souviens, j'avais des variations de température, genre j'avais super chaud, puis super froid, puis super chaud, ça ne s'arrêtait pas. Donc ça, c'était super intense. Après, je dirais qu'au niveau de l'alimentation en général, j'ai toujours adoré cuisiner. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce plaisir à bien manger. Hein. Franchement, j'ai pas attendu au départ, comment dire, de connaître le régime cétogène pour acheter des bons aliments. Ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas que les glucides, même que le sucre, toutes ces choses-là, je parle de sucre raffiné, etc., je ne savais pas forcément que c'était mauvais pour moi. Par contre, j'aimais bien aller chez le boucher, acheter de la viande qui n'était pas,
sous vide.
Sous vide. J'aimais bien savoir d'où venaient les produits. J'étais hyper intéressé par... comment les aliments pouvaient être produits. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a eu la lecture de ce livre de Josh Ax, Salmon bon pour la santé. Mais surtout, à ce moment-là, je rencontre Clem peut-être quelques années auparavant. Mais quand je la rencontre, je décide de prendre un chat. En fait, ça se passe un peu comme ça. Et donc, je n'avais jamais eu d'animaux de compagnie. Et c'est vrai que le chat que nous récupérons est en super mauvaise santé. Et elle n'était pas sevrée. Elle avait à peine 2 semaines. Elle avait une lésion de la langue quand on la récupère. Je sais que je prends une décision à ce moment-là, en tout cas dans ma vie. C'est un moment aussi où je me rends compte que je suis en plein dans le fait de bouger de chez mes parents, donc c'est-à-dire concrètement prendre un appartement, etc. Et en fait, le fait de prendre cette décision me pousse aussi en fait avoir la responsabilité de prendre un appartement et de ne plus vivre chez mes parents.
Tu prends ta vie en main, quoi.
Voilà. Le fait que cette chatte soit autant dans un état... de santé, limite, je m'intéresse énormément à l'alimentation par rapport aux animaux. Parce que, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui a comme envie de nourrir au mieux cet animal, ce chat, cette chatte que je décide d'adopter, quoi. Il y a ce truc là et donc j'ai fait beaucoup de recherches jusqu'à me rendre compte que les croquettes, en tout cas on va dire les croquettes industrielles, ce qui était vendu dans les grandes surfaces, ça n'était vraiment pas l'idéal. Je tombe sur des témoignages, et notamment cette personne qui s'appelle Josh Ax en parle aussi, puisqu'il a des animaux de compagnie, où en fait ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils se sont, ils se sont orientés vers un mode d'alimentation naturel qu'ils appellent BARF, mais en fait c'est un mode d'alimentation où ils ont décidé de reconstituer une proie pour leur animal de compagnie.
Oui, et c'est donc comme si l'animal de compagnie s'alimentait dans la nature.
Donc je sais que pour moi c'était hors de question, il y avait quelque chose où je pouvais pas nourrir inconsciemment. Même un animal, en fait, il y avait quelque chose comme ça.
Tu pouvais pas nourrir sans conscience.
Sans conscience, okay, ouais. Sans me renseigner, en me disant, okay. C'est pas grave, je vais juste lui donner des croquettes. Surtout que j'avais lu plein de témoignages où des animaux étaient morts. En fait, c'est ce que j'avais lu. En fait, en parallèle, moi-même, je changeais de mode de vie. puisque concrètement, bah, en fait, j'avais une vie donc sur la capitale, donc à Paris, où je sortais, je fumais des cigarettes, je buvais de l'alcool, etc. Et en fait, je dirais que peut-être un an et demi avant, j'ai arrêté de fumer des cigarettes, j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que je voyais que ça m'allait pas du tout et que ça me mettait dans des états où je n'étais pas heureux. En fait, j'avais un mal-être, quoi. En fait, c'était ça. Et puis, en fait, petit à petit, le fait de revoir mon alimentation, j'ai vu que je me sentais quand même beaucoup mieux. Et donc, je me sentais beaucoup plus en forme, mais surtout au niveau de, je dirais, pour ma part, en tout cas, vraiment au niveau de mon émotionnel et de comment je me sentais au quotidien, bah, c'était le jour et la nuit. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui sont passées. Et là, ça a été très confrontant parce qu'en fait, j'ai simplement dû écouter les choses qui me correspondaient et qui, je le savais au fond, étaient le plus juste pour moi, tout en ayant des interactions avec bah, mes proches qui n'avaient pas forcément bah, les mêmes envies, hein, en fait, tout simplement. Et donc, ça m'a vraiment demandé simplement de m'affirmer et de petit à petit me dire, bah non, je sais pourquoi je fais ces choses-là. J'ai peut-être pas toutes les informations qui me permettent de comprendre pourquoi je fais réellement tout ça, mais c'était quelque chose de concret que j'actais. Et ça, c'était ce qu'il y avait de plus important pour moi.
Donc tu veux dire, par exemple, le fait de toi t'affirmer par rapport à la pression sociale, entre guillemets, du fait que les repas, c'est très important, voilà, il faut manger pareil que les autres, ou des trucs comme ça, ou...
Ouais, c'était des choses comme ça, et puis même, je veux dire, ça, bon, ça pouvait se passer avec mes parents, mais ça pouvait se passer avec d'autres proches, mais le fait de pas forcément manger aux mêmes horaires, pas les mêmes choses, le fait de changer mon mode de vie, c'était plus ça. C'était surtout le début d'un détachement avec bah, tout un tas de choses qui pouvaient être importantes pour moi, dont en fait le regard des autres, ce nouveau mode d'alimentation, ça a été la possibilité d'acter quelque chose de concret et de changer quelque chose concrètement dans mon quotidien.
Et si tu ramènes à toi le petit animal qui a ouvert la porte vers le fait que tu voulais prendre soin de toi, enfin, ou que ça s'est fait en même temps, c'est impossible de continuer à se nourrir sans conscience. Et donc, truc de mettre de la conscience, ça va chercher tout ce qu'on vient de dire, tous nos programmes là.
Donc effectivement, comme tu dis, c'est pas que le fait de me nourrir différemment, c'est aussi d'autres informations bah, de l'ordre de tout ce qui est partagé sur le réseau Léo et bah, voilà, Laura Knight, Rat Matériel, etc.
Mais c'est se nourrir de plein d'autres informations.
Et c'est ça, en fait, le fait de prendre soin de moi, je comprends aujourd'hui que ce chat est arrivé dans ma vie pour que quelque part je puisse prendre soin d'elle, mais parce que moi je devais prendre soin de moi. Et en fait, toutes ces informations, tout ce mode de vie que je voulais acter et qui était en fait comme un changement, mais en fait c'était parce que quelque part je cherchais constamment à quelque part acter toutes ces informations. Et enfin là, elles étaient disponibles.
Mais tout à l'heure, j'ai parlé du dialogue numéro 39, Rat, Fraise et Télomère, sans forcément préciser, hein, donc c'est tiré des dialogues avec notre ange de Sandé Général, et je précise aussi que, enfin, c'est peut-être le moment de le préciser, que ben là, nous faisons cette vidéo, ce podcast, mais que si des internautes ont des questions à poser ou qui s'interrogent sur certaines choses qu'ils ont envie d'en savoir plus, ben, qu'ils peuvent aller sur le réseau Léo, poser leurs questions éventuellement ou aussi avoir des informations, car effectivement c'est assez riche au niveau informations concernant ce régime là.
Oui, parce que je vois qu'on a essayé de couvrir quelques sujets autour de l'alimentation. C'est vrai que c'est vraiment un thème qui est super riche et je pense qu'on pourrait parler des heures encore sur ça, notamment sur l'iode, le complément en Lugol qui est franchement pour moi super important. Le silicium.
Plein.
Le silicium, bon, d'autres compléments qui peuvent être utiles. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure de nos échanges, nous avons pu un peu reconstituer l'aspect de notre régime paléocétogène. C'est vrai que Dams, je trouve ça super important que tu rappelles que, en plus des informations que nous avons pu échanger aujourd'hui, ben, il y en a encore plus sur des sites comme le réseau Léo. Et c'est vrai que je pense que nous avons couvert quelques sujets qui permettent de un peu reconstituer, ben, en tout cas, l'alimentation paléocétogène que nous adoptons tous les cinq, même si chacun, à sa manière, à sa façon de s'alimenter. Podcast, mais bon. C'est vrai que c'est un sujet qui pourrait couvrir plusieurs podcasts. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, parce qu'à chaque fois qu'on parle, je me dis « Ah, mais on n'a pas évoqué ça non plus !» Mais voilà, je pense que des sujets essentiels comme les effets du gluten dans le corps, du lactose, du végétarisme, les carences que ça peut causer, nous les avons abordés. L'importance de la viande animale, le lien aussi avec les perceptions qu'on peut avoir de notre réalité, la sexualité, le fait de plus écouter son corps et d'être en contact avec son corps. Voilà, je trouvais que l'alimentation vraiment touchait à tout ça. Voilà. Et je vois vraiment que ça entraîne beaucoup de changements.
Et moi, je dirais que c'est même une conséquence de tout le travail intérieur que l'on fait. Ben, en fait, ça se lie dans les comportements avec l'alimentation, tout en même temps, en actant, en mettant en pratique des informations qu'on a intellectuellement. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. En tout cas, moi, c'est ce que je vis et ce que je vois aussi autour de moi, quoi.
Bon, ben, en tout cas, je vous dis à bientôt et je sais qu'on se retrouvera dans un prochain podcast, hein.
Ouais.
Pour traiter d'un autre sujet ou peut-être continuer à parler de l'alimentation.